Midi 1. Mariam, matin famille.
Merci à vous de votre fidélité. Je le disais donc, ce matin, on parle de cardiomyopathie hypertrophique. Elle est considérée comme étant la plus fréquente des maladies cardiaques d'origine génétique. Et pour en parler, pour essayer de comprendre cette maladie, avec nous, en direct depuis Rabat, notre spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux, Dr Kawthar Louardiri. Bonjour docteur.
Bonjour Didier, bonjour à tous.
Et merci de répondre présente à cette invitation, comme tous les mercredis matins sur Medi 1.
Merci à vous.
Alors d'abord, cette maladie donc, qu'est la cardiomyopathie hypertrophique, comment peut-on la définir, docteur ?
Alors déjà, je vous félicite pour le choix de ce sujet. C'est un sujet qui est un peu délicat. Malheureusement, c'est une maladie qui n'est pas très bien connue pour la population générale, mais oui, qui existe et qui a un risque non négligeable de mort subite, malheureusement. Donc, il est très important de la connaître et de savoir la gérer si on est porteur justement de cette maladie.
Et surtout que le disais, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, vous le confirmerez, c'est l'une des maladies les plus fréquentes, les maladies cardiaques d'origine génétique, donc les plus fréquentes, est-ce que c'est bien cela ?
Exactement, tout à fait.
Oui.
C'est la plus fréquente des maladies génétiques.
Et pourtant, on n'en parle pas souvent.
Exactement, exactement. Elle est très très méconnue comme maladie, mais qui existe réellement.
Mm-hmm.
Donc, on va décortiquer un petit peu cette appellation pour comprendre de quoi s'agit-il.
Oui.
Alors, cardiomyopathie, on a une partie cardio, ça veut dire que c'est une maladie cardiaque. Myo, ça veut dire musculaire. Hépatie, ça veut dire maladie. Donc, c'est une maladie du muscle cardiaque.
D'accord.
Et hypertrophie veut dire épaississement, grossissement. Et ça peut concerner plusieurs organes.
Donc, d'accord.
La cardiomyopathie hypertrophique est caractérisée par un épaississement du muscle cardiaque. Et comme vous l'avez bien dit, elle est d'origine génétique. Alors, c'est quoi le problème ? Cet épaississement nous cause principalement deux problèmes. Alors, à l'intérieur de ce muscle cardiaque passent les artères coronaires. Souvenez-vous, on en a parlé quand on a parlé de l'infarctus du myocarde, etc.
Absolument.
Ce sont les artères nourricières qui ramènent le sang et les nutriments pour ce muscle-là.
Mmh.
Et à l'intérieur de ce muscle aussi passe le circuit électrique, les nerfs, qui sont responsables de cette contractilité et de cette fonction de pompe cardiaque.
D'accord.
Donc, quand on a un épaississement de ce muscle, ces vaisseaux et ses nerfs sont écrasés, c'est là où on commence à avoir des problèmes, notamment des douleurs à la poitrine ou des arythmies cardiaques.
D'accord.
Alors le deuxième problème, c'est que cet épaississement, il peut se localiser dans une partie de la cloison entre les deux ventricules à la sortie du cœur et constituer un blocage à cette fonction de pompe. Et donc on a du sang qui reste stagné à l'intérieur des cavités cardiaques et bien sûr qui peut donner plusieurs complications, notamment la formation de cailloux de sang, etc. Et en même temps, c'est que le débit cardiaque qui sort du cœur est faible et n'est pas suffisant pour les organes qui justement attendent ce sang et ces nutriments qui arrivent à partir du cœur.
D'accord.
Alors, je l'ai bien annoncé au départ, malheureusement, le risque majeur de cette maladie étant la mort subite, d'où l'intérêt de faire le dépistage et le diagnostic à temps.
Justement, comment, pour faire le diagnostic précoce, il faut en reconnaître les premiers signes, donc, et ces premiers symptômes, donc, docteur Louardiri.
Alors, cette maladie, elle peut rester longtemps asymptomatique avant de manifester des signes cliniques, et qui sont d'ailleurs pas spécifiques de la maladie. Ce sont des signes qui orientent vers un problème cardiaque, mais pas forcément la CMH. Alors, ces symptômes peuvent être un type d'essoufflement à l'effort, de douleur à la poitrine, de palpitations, de perte de connaissance, œdème au niveau des jambes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, quand on a ce genre de symptômes, il faut s'orienter vers un cardiologue qui, à travers l'examen clinique, l'électrocardiogramme et l'échocardiographie, pose le diagnostic de cette maladie et commence à faire des investigations pour voir quelles sont les différentes options thérapeutiques pour chaque patient et évaluer surtout ce risque de mort subite et voir s'il y a une indication à placer un défibrillateur électrique pour protéger ce patient ou pas.
D'accord. Et ces personnes à risque, justement, est-ce qu'il existe véritablement des personnes à risque, docteur Louardiri ?
Oui, tout à fait. Il existe des personnes à risque. Ce sont les personnes qui sont porteuses de la mutation génétique.
D'accord.
Mais
donc, c'est essentiellement génétique.
Voilà, tout à fait. Il n'existe pas de facteur de risque qui favorise le développement de cette maladie. Alors, on parlait souvent d'hypertension artérielle, de diabète, de dyslipidémie quand on parlait des autres maladies précédemment. Ce n'est pas le cas pour la cardiomyopathie hypertrophique. Ici, le risque principal, c'est lorsqu'on est porteur de cette mutation de gène. Alors, toutefois, ce qui est intéressant de savoir, quelles sont ces personnes qui ont un risque de mort subite élevé? En fait, c'est un score qu'on calcule sur la base de plusieurs paramètres cliniques et échographiques et qui nous permettent de dire est-ce que ce sujet-là présente un risque important ou pas. D'accord. Alors, et ces paramètres sont la présence d'une arythmie, la perte de connaissance inexpliquée, s'il y a déjà une histoire de mort subite dans la famille ou lorsqu'on a un épaississement très important calculé à l'échographie qui dépasse les 30 mm.
Les premiers gestes à adopter, voilà, quand un signe apparaît, comment doit-on réagir?
Alors, si on a des symptômes, il faut toujours consulter pour avoir un diagnostic et bien sûr pour pouvoir traiter. Si on a quelqu'un dans notre famille qui est porteur d'une cardiomyopathie hypertrophique, il faut se faire examiner, même si on est asymptomatique, même si on est jeune, on ne présente aucun signe clinique. C'est très important de faire le dépistage. À chaque fois qu'on fait un diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique, il faut dépister tous les membres de la famille. Si on sait qu'on a une CMH, il faut faire les explorations nécessaires et de 1 pour évaluer le risque de mort subite et la nécessité d'implantation d'un défibrillateur et de 2 pour connaître les différentes options thérapeutiques et savoir si oui ou non on est candidat à une chirurgie.
D'accord. Alors, quand consulter en urgence cette fois-ci, docteur Louardiré, on se pose forcément la question. Vous l'avez dit donc, ça fait partie bien évidemment de ces gestes à adopter. Vous l'avez très bien dit. Donc il faut consulter. Mais quand est-ce que la consultation est quand est-ce qu'il ne faut absolument pas tarder justement à aller voir un cardiologue?
Exactement. Alors pour faire plus simple, il y a 3 signes principaux qui nous poussent à consulter en urgence et sans délai. Alors la perte de connaissance, les palpitations ou le ressenti d'un rythme cardiaque anormal et la douleur à la poitrine.
Alors en termes de traitement et de chirurgie, on va peut-être y arriver par la suite. Comment ça se passe?
Alors il y a 3 volets de traitement. Il y a les médicaments, il y a la chirurgie et il y a le défibrillateur électrique. D'accord. Alors les médicaments, c'est une classe thérapeutique qu'on appelle bêta bloquant ou inhibiteur calcique bradycardisant. Au fait, son rôle, c'est de diminuer cette force de contraction du muscle cardiaque pour l'aider à expulser le maximum de sang hors de ses cavités. Mmh. D'accord ? Alors ça, c'est le traitement principal que va prendre tous les patients, on va dire. Alors la deuxième option, c'est la chirurgie et que ça consiste en l'ablation d'une partie du muscle cardiaque pour détruire un petit peu cet épaississement. Et bien sûr, cette ablation peut être grâce à une chirurgie pure ou à travers des solutions hypertoniques qui vont détruire des cellules du muscle cardiaque et qui vont favoriser un petit peu qui vont faciliter le travail de pompe et enlever cet obstacle.
D'accord.
Et puis, le défibrillateur électrique, en fait, c'est un engin qu'on implante sous la peau et qui est connecté avec le cœur via des sondes, qui est là à l'écoute. Quand il décèle une arythmie, il délivre un choc électrique. En fait, c'est comme le choc électrique externe, un peu comme ce qu'on voit dans les films, quand le patient il est devant une arythmie grave et quand on charge les palettes et tout. En fait, celui-là, il fait le travail en interne, il est à l'écoute. Quand il décèle un problème, il délivre un choc et c'est un engin qui est là pour la sécurité de ce patient, surtout les patients qui ont un risque élevé d'apparition de mort subite.
Si ce n'est pas traité à temps, vous l'avez dit, il faut aller consulter, il faut traiter à temps, mais si ce n'est pas fait à temps, quels peuvent en être les risques, les séquelles à court terme, à moyen terme et peut-être même à long terme, docteur Louardiré?
Alors, je ne vais pas, on l'a suffisamment répété ce matin, le principal risque, c'est malheureusement la mort subite par arythmie cardiaque. C'est effrayant à dire, mais c'est vraiment le risque principal de cette maladie. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ces symptômes et cette maladie à la légère. Alors, ça, c'est le risque numéro 1. Alors, on peut également avoir comme risque une formation de caillots de sang à l'intérieur, donc des cavités cardiaques à cause de cet obstacle. Cet obstacle fait que le sang stagne à l'intérieur des cavités et forme des petits caillots. Et ces caillots-là peuvent nous donner des problèmes quand ils migrent. C'est-à-dire quand ils partent vers le cerveau, on peut avoir des AVC. S'ils partent vers les jambes, c'est une ischémie des membres inférieurs. S'ils partent dans l'abdomen, c'est une ischémie mésentérique. Et s'ils partent dans les artères, donc du poumon, c'est l'embolie pulmonaire. Et puis, on a comme complication principale aussi l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que long cours, le muscle cardiaque va se fatiguer, il va lâcher, il va devenir impuissant. Il a tellement lutté contre un obstacle important qu'il ne pourra plus remplir sa fonction de pompe cardiaque et on va tomber dans l'insuffisance cardiaque.
Alors, quand on doit vivre avec, quelle précaution, quelle conduite à tenir, quel conseil avant de finir notre entretien, docteur Kautar Al-Waldiri, je rappelle que vous êtes spécialiste en cardiologie à Rabat.
Alors, si on est diagnostiqué porteur d'une cardiomyopathie hypertrophique, il faut examiner toutes les options pour pouvoir mener une vie sécurisée et s'éloigner au maximum possible de ce risque de mort subite. Donc, il ne faut pas négliger les différentes explorations proposées par le médecin. Ceci est très important pour connaître le traitement adapté à chaque patient. Alors, il faut dépister toute la famille, même s'il ne présente aucun symptôme, et refaire cette évaluation à chaque fois un membre de la famille représente un signe clinique. Alors, il ne faut pas faire d'exercice excessif, il ne faut pas faire d'efforts importants ou de sport intense, parce que cela peut provoquer des arythmies. Et puis, bien évidemment, il faut faire un suivi très régulier, surtout si on est porteur d'un défibrillateur électrique implantable.
Parfait. Docteur Kautar Al-Waldiri, je rappelle que vous êtes spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux. À Rabat, merci. Vous étiez avec nous en direct depuis Rabat. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu présente à cette invitation sur Média.
Merci à vous et bonne journée à tous.
Très bonne journée. C'est un entretien réécoutable sur notre site Média.com.